Laudetur Jesus Christus.
Mobilisation pro-palestinienne sur les campus aux États-Unis. Le président Biden juge ce soir que l'ordre doit prévaloir depuis la mi-avril. La police américaine a procédé à des arrestations sur une trentaine de sites universitaires. Et puis encore aujourd'hui à Los Angeles. En proie à un terrible effondrement économique et social, le Liban recevra de l'aide de l'Union européenne 1 milliard d'euros en 3 ans. En contrepartie, Bruxelles demande à Beyrouth de coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine. L'UE, aux côtés des Libanais et des manifestants en Géorgie depuis plusieurs jour, l'Union européenne exprime sa préoccupation et condamnation des violences en marge des rassemblements à Tbilissi contre la loi sur les agents de l'étranger. Et puis enfin, la primauté du pape, un sujet de discorde dans le dialogue entre les confessions chrétiennes lors d'une audience avec des évêques anglicans. François a promis d'approfondir la question en vue de la pleine communion.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas s'exporte aux États-Unis. À l'instar d'autres pays, les protestations contre la guerre menée par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza polarisent les campus américains. Hier, la police a même été déployée dans plusieurs universités, procédé à des arrestations entre droit de manifester, liberté d'expression et antisémitisme. Pas facile de se mouvoir depuis plusieurs jours. Xavier Sartre.
Les images sont rares. Des policiers new-yorkais intervenant sur le campus de l'université de Columbia, l'une des plus prestigieuses du pays, ont démantelé un campement d'étudiants protestants contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. La scène s'est répétée sur plusieurs autres campus du pays, en Californie, au Texas notamment. Plusieurs centaines de personnes en tout ont été interpellées. Devant de tels événements, Joe Biden ne pouvait pas se taire. Le président américain s'est exprimé il y a quelques dizaines de minutes depuis la Maison-Blanche, réaffirmant le droit de manifester et le droit de s'exprimer, mais insistant sur le fait que l'ordre devait prévaloir. Il a exclu cependant tout recours à la garde nationale. Les discours de haine ou l'antisémitisme n'ont pas leur place non plus sur les campus ou dans le pays, a-t-il répété. En revanche, sur le fond du problème, la conduite de la guerre par Israël et surtout la politique de soutien des États-Unis au gouvernement de Benjamin Netanyahou, pas question de changer de cap, a réaffirmé Joe Biden. Le président américain fait face depuis plusieurs semaines aux critiques de cette alliance. Les électeurs démocrates musulmans ont déjà fait entendre leur voix lors de la primaire du Michigan fin février, menaçant même de ne pas voter pour lui. Du pain béni pour les républicains qui tentent depuis de tirer parti de ces désordres.
Xavier Sartre. Et puis ce soir, le président israélien s'adresse aux étudiants et aux communautés juives aux États-Unis. Nous sommes avec vous, nous comprenons la peur. Isaac Herzog dénonce la terrifiante résurgence de l'antisémitisme dans le monde et notamment dans ce pays où, dit-il, des universités réputées sont contaminées par la haine. Après 6 mois et demi de guerre à Gaza, la trêve dans l'enclave palestinienne est toujours attendue. Un plan qui prévoit un arrêt temporaire des combats et l'échange d'otages et de prisonniers est en cours de négociation. Ce soir, le chef du Hamas dit étudier l'offre israélienne dans un esprit, dit-il, positif. Et puis, selon l'ONU, les destructions sont telles à Gaza que le coût de la reconstruction s'élèverait entre 30 et 40 milliards de dollars. 72% des bâtiments résidentiels y ont été totalement ou partiellement détruits. Et puis, ce sont 2 hommes qui œuvrent chacun leur manière pour la paix au Proche-Orient. Le pape François a reçu ce matin le roi Abdallah de Jordanie, gardien des Leciens de Jérusalem. Plus de détails sur notre site internet. On reste dans la région en visite à Beyrouth, la capitale libanaise. Aux côtés du président chypriote, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé tout à l'heure l'octroi au Liban d'un programme d'aide européenne d'une valeur de 1 milliard d'euros jusqu'en 2027, tout en appelant ce pays en crise à coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine. On fait le point avec Paul Ralifé.
Le déferlement vers l'île de Chypre depuis le début de cette année de centaines de migrants syriens en provenance du Liban a finalement poussé l'Union européenne à se pencher sérieusement sur les demandes formulées par Beyrouth depuis des années. Le Premier ministre libanais a encore une fois répété devant ses hôtes la position de Beyrouth qui plaide pour un retour volontaire des réfugiés syriens qui constituent aujourd'hui le tiers de la population. Najib Miati a estimé que la solution au problème est politique par excellence et passe par la reconnaissance par la communauté internationale que la plupart des régions syriennes sont désormais sûres. Le chef du gouvernement a mis en garde contre une instabilité liée à la présence des migrants syriens au Liban qui risque de s'étendre à l'Europe. Face aux pressions chypriotes et libanaises, l'Union européenne a, semble-t-il, jeté du lest. Ursula von der Leyen a évoqué pour la première fois une approche plus organisée du retour volontaire en Syrie. L'enveloppe de 1 milliard de dollars annoncée par la dirigeante européenne visera à renforcer les secteurs essentiels comme l'éducation, la sécurité sociale et la santé. Du matériel et des formations seront assurés aux forces de sécurité pour leur permettre de mieux contrôler les frontières. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
L'Union européenne qui fait face à une hausse des demandes d'asile et qui passe des accords avec la Tunisie, la Mauritanie, l'Égypte pour tenter de réduire le nombre d'arrivées à ses frontières. Et pourtant, une étude de l'OCDE défend ce jeudi que l'immigration a bel et bien soutenu la croissance des pays développés en 2023, notamment au Royaume-Uni. Et ce jeudi, la question migratoire fait la une de l'actualité britannique. Hier, en une seule journée, plus de 700 migrants sont arrivés dans le pays sur de petits bateaux, un record pour 2024. Or, on le sait, le gouvernement a érigé en priorité de mettre fin aux traversées de la Manche. Et ce sera un test pour Rishi Sunak et son équipe à quelques mois d'un scrutin national. Des élections locales auront lieu demain en Angleterre et au Pays de Galles. Des archevêques, évêques, présidents et modérateurs des églises de la communion anglicane sont réunis à Rome. Prier, marcher, travailler ensemble, c'est le désir que leur a exprimé ce matin le pape François. François qui a souligné les avancées concrètes enregistrées en 50 ans de dialogue entre chrétiens. Avancées et points de blocage, il a en effet abordé la question de la primauté. Jean-Charles Puzolu.
Notre communion imparfaite ne doit pas nous empêcher de marcher ensemble. François ne met pas de côté les questions qui divisent encore l'Église catholique de la communion anglicane. À côté des nombreux progrès réalisés et qui offrent des perspectives capables de surmonter le découragement et les inquiétudes, le pape aborde sans détour la question controversée de la primauté, qui continue de diviser même si plusieurs années de dialogue œcuménique permettent aujourd'hui de l'envisager comme un don à partager. Le rôle de l'évêque de Rome, explique François, est d'être le serviteur des serviteurs de Dieu. Le pape invite ses hôtes à persévérer avec patience et confiance dans le dialogue fraternel afin de comprendre tous ensemble comment le ministère pétrinien peut être exercé. En ce sens, le souverain pontife avoue espérer que le synode dans lequel il a engagé son Église pourra contribuer à apporter des éléments nouveaux grâce, souligne-t-il, à la participation des délégués fraternels représentant des différentes confessions chrétiennes. Mais le message essentiel que livre le pape au primat est le suivant. Il serait scandaleux qu'en raison de nos divisions, catholiques et anglicans n'accomplissent pas leur vocation commune qui est d'annoncer et de faire connaître le Christ.
Jean-Charles Puzolu, et puis le pape qui s'est par ailleurs exprimé dans une lettre adressée aux curés du monde entier, les invitant à être des constructeurs d'une église synodale missionnaire. Une lettre publiée alors que 300 curés de paroisses du monde entier viennent d'achever une rencontre très près de Rome pour partager leur expérience à l'approche de la prochaine assemblée synodale au mois d'octobre. Plus de détails sur vaticannews.va. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la Géorgie, de nouveau en ébullition, des milliers de personnes encore hier dans les rues de Tbilissi pour dénoncer l'adoption d'une loi sur les infiltration étrangère, un dossier suivi de très près à Bruxelles. Depuis plusieurs jours, l'UE exprime sa préoccupation, sa condamnation aussi des violences en marge des manifestations contre cette loi que le parti rêve géorgien au pouvoir tente d'imposer. L'UE se range par ailleurs du côté des manifestants car elle estime que ce texte menace les ambitions de la Géorgie d'accéder à l'UE. Pierre Benazé.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle la Géorgie à garder le cap vers l'UE. Un concert de voix s'élève dans le même sens à Bruxelles. Des critiques ont aussi été émises par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et par le commissaire européen à l'élargissement, Oliver Vorey. Selon eux, une adoption finale de cette législation aurait des conséquences négatives sur les progrès de la Géorgie sur son chemin européen. L'Union européenne vient justement d'entamer les discussions pour réformer l'état de droit. Elle n'a pas réussi à empêcher certains de ses membres actuels de régresser et elle veut mettre en place des outils nouveaux. Ceci pourrait compliquer les négociations d'adhésion qui sont déjà une gageure. Mais surtout, cela pourrait coûter cher à la Géorgie, au sens premier du terme, car le premier outil envisagé est d'étendre la conditionnalité budgétaire. La conditionnalité, c'est l'obligation de respecter les valeurs démocratiques européennes. Sinon, on perd l'accès aux financements européens. Cette nouvelle règle a fait ses preuves avec la Hongrie et on envisage désormais de l'étendre à la politique d'élargissement. Les pays qui négocient leur entrée dans l'Union européenne reçoivent des financements dits de préadhésion. Ces financements pourraient être menacés si le pays candidat s'écarte de la trajectoire attendue par les Européens. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
En Ukraine, 6 enfants blessés aujourd'hui dans une frappe russe dans le nord-est du pays, la région de Kharkiv, frontalière de la Russie, et dont une importante partie avait été occupée par l'armée de Moscou au tout début de son invasion, reste aujourd'hui sous un feu quasi constant. Pékin a haussé le ton aujourd'hui, se disant prêt à prendre des mesures nécessaires pour défendre les intérêts de ses entreprises, après l'annonce par Washington de sanctions visant les entreprises de Chine ou d'autres pays qui aident Moscou à acquérir des armes pour sa guerre en Ukraine. Et puis enfin, en Grèce, la justice a accordé une libération conditionnelle au chef du parti néo-nazi Obdoré. Il était emprisonné pour le meurtre notamment d'un rappeur antifasciste il y a 10 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.